Professeur Pixurel, bonjour.
Bonjour, monsieur Poli.
Vous êtes professeur de pharmacie galénique à l'Université de Marseille, à la faculté de pharmacie. Professeur Pixurel, pouvez-vous nous parler de votre cursus universitaire, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, donc j'ai suivi mes études pharmaceutiques classiques, donc qui durent 6 ans. Mais à partir de la 4e année, donc j'avais décidé de passer l'internat donc en pharmacie, qui m'a permis d'aborder le secteur médical avec le domaine, par exemple, de l'Alzheimer, puisque l'Institut Alzheimer venait juste de se créer à l'époque. Donc j'ai commencé à travailler un petit peu avec le professeur Poncet. Et puis j'ai écumé un petit peu les hôpitaux de Marseille, donc dans des services différents, touchant aux matières premières donc utilisées au niveau de la pharmacie, aux médicaments, aux essais thérapeutiques. Et donc ça m'a permis de connaître un petit peu tous ces secteurs. Et parallèlement, bien sûr, j'ai suivi, si vous voulez, un cursus qui m'a permis d'obtenir donc ce poste à la faculté, c'est-à-dire un diplôme d'études approfondies en physico-chimie du médicament, donc que j'avais passé à l'époque à Montpellier, et ensuite une thèse universitaire sur le thème donc de l'utilisation de médicaments par voie transcutanée, qui m'a permis donc de me spécialiser un peu plus dans ce que l'on appelle donc la pharmacie galénique et aussi la dermocosmétologie.
Professeur, quelle est la place de la pharmacie galénique dans le domaine médical ?
Alors tout d'abord, pour les profanes, la pharmacie galénique, aujourd'hui on l'appellerait plutôt la physico-chimie du médicament et la technologie pharmaceutique. C'est-à-dire à partir d'une molécule donc active, quand on parle de médicaments, on va vous parler de l'ibuprofène, on va vous parler du méthotrexate, on va vous parler donc de molécules. Mais le médicament en lui-même, c'est un tout, c'est la molécule, mais mise en forme dans une matrice ou dans un sirop ou dans une gélule, etc., qui puisse être administrée. Donc on ne peut pas dissocier la molécule de la voie d'administration, et pour arriver à cette voie d'administration, il est nécessaire d'étudier la physico-chimie de la molécule pour pouvoir ensuite l'administrer. Et c'est pour cela qu'on a dans la pharmacie galénique de nombreux domaines, fabriquer des formes sèches comme des comprimés, des gélules, des granulés, et complètement différent de fabriquer en fait des gels transcutanés ou de fabriquer des médicaments pour la voie parentérale, c'est-à-dire pour la voie injectable. Donc il faut bien se dire que la pharmacie galénique doit bénéficier des apports des connaissances de la physique, de la chimie, mais également des connaissances en physiologie, des connaissances en pathologie et également en process, c'est-à-dire en procédé de fabrication. Et le procédé de fabrication, c'est aussi des connaissances de la science de l'ingénieur et notamment de la technologie pharmaceutique. Donc vous voyez qu'en fait, la pharmacie galénique, qui semble en fait une discipline touche-à-tout, nécessite des connaissances larges, même si elles ne sont pas approfondies dans tous les domaines, mais pour pouvoir avoir une problématique, c'est-à-dire j'ai une molécule, je veux que cette molécule agisse sur telle et telle pathologie parce que des études ont montré qu'elle pouvait être utilisée dans une pathologie donc spécifique. Comment, à partir de ces connaissances et de la connaissance de la molécule, on va pouvoir la formuler pour pouvoir l'administrer de la façon la plus simple possible pour le patient.
Professeur Pixurel, pouvez-vous entrer dans le détail sur ces avantages que retire le patient en pharmacie galénique ?
Alors pour cela, je ne vais pas être exhaustif, je vais vous donner quelques exemples qui montrent en fait les avantages. Par exemple, on sait qu'on a des molécules qui ont une activité, une efficacité assez courte dans le temps, c'est ce qu'on appelle en fait la demi-vie du médicament, donc qui est courte. Et donc on sait que malheureusement pour maintenir des taux constants et avoir une efficacité constante dans le temps, ben il faudra prendre, en fonction de la demi-vie, donc chaque fois renouveler la prise du médicament. Alors les formes les plus simples et les plus faciles à expliquer sont ce qu'on appelle les formes à libération prolongée, qui sont en fait des formes qui permettent de délivrer le médicament dans le temps, et ceci pendant une période assez longue. Ce qui veut dire qu'au lieu de prendre 3 ou 4 comprimés dans la journée, selon le type de médicament, ben, il suffira simplement d'une prise pour couvrir les besoins. Et donc, vous comprenez bien qu'il y a déjà une facilité. Deuxièmement, pour une personne, par exemple une personne âgée qui peut oublier de prendre le médicament, il est plus simple d'en prendre un le matin ou un le matin et un le soir plutôt que d'en prendre 4 dans la journée. Et donc tout ceci amène à ce que l'on appelle une meilleure observance du traitement, c'est-à-dire que le patient va pouvoir bénéficier de l'efficacité dans le temps sans avoir donc de baisse en fait au niveau de l'efficacité de ce médicament. Alors, l'intérêt, c'est donc ce prolongement de l'activité, mais ça peut être également de baisser la toxicité d'un médicament parce qu'on va avoir, si vous voulez, une diffusion qui va être plus lente, pas très massive, et qui permet donc de baisser aussi quelquefois les effets secondaires. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple qui sera facilement, on va dire, détectable par le commun des mortels. Par contre, peut-être une précision, parce que souvent il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là, c'est que quand on a une forme à libération prolongée, on a une entité unique. Et si le patient casse le comprimé à libération prolongée en deux, on n'a plus une forme à libération prolongée, mais on a une forme à libération immédiate, et là, tout le produit est libéré complètement dans le temps. Donc il faut bien, et c'est le rôle du pharmacien, d'avertir le patient qu'une forme à libération prolongée doit pouvoir être administrée de façon intègre au patient et de surtout de ne pas toucher la forme, de ne pas la broyer. Et c'est d'ailleurs aussi notre rôle en tant que pharmacien de l'expliquer au patient et de l'expliquer aussi à certains médecins pour certaines formes particulière.
Professeur, où en sont les innovations en pharmacie galénique ?
Alors, depuis longtemps, bien sûr, on travaille au niveau recherche sur quelquefois des chimères, et puis on avance tout doucement. Vous savez que dans les années 60, avec la découverte notamment des liposomes, on pensait qu'on allait vaincre des maladies puisqu'on allait vectoriser à l'endroit où il fallait les molécules. Puis on s'était aperçu que, par exemple, lorsqu'on greffait un anticorps monoclonal sur un liposome, ben, ça entraînait d'autres problèmes, des problèmes de taille, des problèmes de reconnaissance immunitaire, etc., et qu'on n'était pas au bout de nos peines. Alors, on travaille toujours dans cette optique-là, c'est-à-dire encapsuler des substances pour les protéger, encapsuler des substances pour les faire reconnaître au niveau de la constitution du produit, mais également au niveau de la taille des particules, puisque vous savez que maintenant on descend vers les tailles nanomériques et qu'on arrive même à administrer, on essaye justement d'administrer des substances dans ce qu'on appelle des micelles, qui sont en fait des associations de tensioactifs et qui font de 4 à 6 nanomètres seulement. Et donc ce sont des systèmes vecteurs que l'on essaye d'optimiser. Et tout doucement, on arrive à optimiser et à avoir donc des résultats dans ce domaine-là. Pour être un peu plus pragmatique, on a fait beaucoup de progrès dans la formulation de nouvelles formes. Pour vous donner un exemple, vous savez que l'insuline, qui est administrée malheureusement à un grand nombre de diabétiques, notamment par voie sous-cutanée, est quelque chose de très lourd, notamment parce que on a une forme invasive, on va piquer régulièrement dans les tissus avec le traumatisme et cellulaire, mais aussi psychologique. Actuellement, l'insuline est largement étudiée et on pense donc dans un avenir très récent, puisqu'il y a des médicaments aux États-Unis qui sont déjà pratiquement sur le marché, utiliser par exemple pour l'insuline ou la voie nasale, ou la voie pulmonaire, c'est-à-dire aérosol ou nasal. Donc vous voyez que les progrès se font, Ils ne sont pas toujours au devant de l'actualité, mais je pense qu'il faut, avec du recul, pouvoir avancer tranquillement pour pouvoir enfin donner un espoir, mais un véritable espoir et pas un espoir qui est tronqué parce qu'on va avoir des problèmes qui sont des problèmes tout à fait normaux lorsqu'on avance dans la recherche.
Professeur, vous venez de parler de nanotechnologie. Est-ce que l'on envisage d'avoir recours un jour à ces technologies en pharmacie galénique ?
Alors, il est clair que pour moi, c'est l'avenir de la pharmacie galénique, de la médecine en général. Vous savez que de plus en plus, il existe des colloques centrés sur cette idée des nanotechnologies appliquées au niveau médical. Alors, il y a beaucoup de choses qui circulent et qui sont intéressantes. C'est peut-être de mettre des capteurs donc de taille nanomérique au niveau de l'organisme pour nous donner en endroit précis, cellulaire, des constantes ou des paramètres qui sont intéressants, qui puissent être ensuite répercutés au niveau d'un système que l'on va mettre ou sur la peau ou un autre endroit de l'organisme et qui va être intelligent puisqu'il va reconnaître les informations données par ce capteur et qui va lui-même délivrer un taux approprié de médicaments. Voilà le rêve, voilà une idée qui n'est pas si lointaine mais qui demande d'abord beaucoup d'argent. Alors l'argent est important puisque actuellement je pense qu'il y a deux pays, c'est-à-dire les États-Unis et le Japon, qui ont les moyens de développer des laboratoires totalement dédiés à cette activité. Donc en France, on y pense, relier l'électronique, la physique quantique, la galénique et la médecine, c'est quelque chose qui est merveilleux, qui nous fait tous rêver. Alors c'est vrai qu'on a déjà un petit point d'attache, puisque en pharmacie, notamment dans le domaine de la recherche pharmaceutique, de plus en plus, vous verrez le nombre de publications qui sont assez importantes sur l'utilisation de nanoparticules, donc de nanovecteurs, qui, par leur taille et par leur constitution, permettent, si vous voulez, d'avoir une action autre que les substances que nous avons actuellement et les formes que nous avons actuellement à disposition.
Professeur Pixurel, quels sont les sujets de recherche que vous développez à l'heure actuelle dans vos laboratoires ?
Alors nous avons la chance d'avoir des collègues qui travaillent dans des domaines un peu différents de la pharmacie galénique. Et donc à ce sujet, nous développons d'abord des formes un petit peu innovantes. Alors innovantes de par leur action et de par leur, si vous voulez, l'existence de polymères particuliers ou de formes particulières qui ne sont pas actuellement utilisées en pratique courante. Alors j'ai un collègue qui travaille sur les formes orodispersibles et les formes flottantes, c'est-à-dire en fait des formes qui vont flotter au niveau du tube digestif pour augmenter leur durée d'action. Et effectivement, il y a des brevets qui sont en train de voir peut-être naissance dans ce domaine-là. Nous travaillons également sur la voie pulmonaire avec certains collègues donc pour optimiser l'administration par voie pulmonaire de certains médicaments. Et enfin, là, je m'occupe moi plus particulièrement de la voie cutanée, transcutanée, avec l'utilisation de produits antiradicalaires qui vont permettre en fait de lutter contre les effets par exemple du soleil, donc les radicaux libres, piéger certains radicaux libres. Également, il n'y a pas très longtemps, nous avons avec une de nos thésardes et le service de pharmacocinétique donc de la faculté, nous avons mis au point en fait des liposomes qui contiennent du 5FU, donc un produit qui est utilisé largement pour les cancers coliques, mais associé à un immunomodulateur de l'activité de ce 5FU qui nous a permis en fait d'optimiser cette activité. Alors il y a eu des essais qui ont été faits sur des modèles tumoraux et qui ont montré donc des effets assez intéressants. D'ailleurs, ces collègues-là partent régulièrement pour les États-Unis pour exposer leurs travaux qui ont donc montré un intérêt par nos collègues donc étrangers.
Professeur Pixurel, je vous remercie beaucoup. Tout ceci est particulièrement intéressant et j'espère vous revoir bientôt.
Ben, je vous remercie également, puis je vous remercie surtout de nous donner la parole pour pouvoir diffuser un petit peu les informations qui sont dans nos labos, qui ont l'air d'être des lieux clos et pourtant qui sont des lieux si publics.